France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct jusqu'à 11h. Et ce matin, activité physique, comment lutter contre notre paresse naturelle? Comment déjouer notre tendance à adopter la loi du moindre effort? Comment combattre ce syndrome du paresseux qui nous touche souvent au cœur de l'hiver? Que celui ou celle qui n'a jamais renoncé au dernier moment à une séance d'exercice physique pour s'adonner aux joies du canapé me jette la première pierre. Problème, l'inactivité physique chronique nous tue à petit feu. La sédentarité provoque de nombreux dégâts sur notre santé physique et mentale, avec une espérance de vie qui se réduit à mesure que nous devenons inactifs ou sédentaires. C'est pour cela que pour devenir physiquement plus actif, il est très important de comprendre les mécanismes qui nous empêchent de bouger. Et vous, quel sédentaire êtes-vous? Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous mettre en mouvement? À l'inverse, quels sont vos conseils et stratégies pour bouger? Je vous attends nombreux au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser de nombreux messages ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allez Rébéi.
Bonjour Boris Cheval.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neuropsychologie de santé, psychologie du sport et épidémiologie sociale. Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure de Rennes et vous publiez chez Dunod Poche avec le neuroscientifique de l'Université d'Ottawa, Mathieu Bois-Gontier, Le syndrome du paresseux, comment combattre notre inactivité physique. Un essai vraiment très bien écrit, très drôle et scientifiquement très robuste. Bonjour professeur Martine Duclos. Professeur Martine Duclos, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et présidente de l'ONAPS, l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité, et experte de cette émission. Bonjour Lucille Woodward.
Bonjour.
Vous êtes journaliste santé, professeure de fitness et coach sportive, mais aussi créatrice de contenu fitness sur Instagram et YouTube. Sur YouTube, il y a 800 000 abonnés et sur Instagram, 300 000 abonnés qui vous suivent.
Voilà, c'est ça.
Et on aura la chance, au cours de cette émission, que vous nous allez nous faire quelques mouvements d'exercice physique face aux caméras de France Inter. Et j'ai hâte, parce que vous nous avez montré hors antenne, c'est des choses faciles à faire, notamment sur son canapé.
C'est ça, avec grand plaisir.
Alors, professeur Martine Duclos, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'inactivité physique, de sédentarité? Est-ce que c'est la même chose? Et est-ce que l'exercice physique, c'est la même chose que la pratique sportive?
Alors non, tout ça c'est des mots dont pour lesquels les gens ont tendance à se mélanger. Donc en fait, l'inactivité physique, c'est d'avoir un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations pour la santé. Donc c'est faire en moyenne moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine. Mmh. Voilà. La sédentarité, c'est passer trop de temps assis. C'est-à-dire qu'il faut calculer tout le temps que vous passez assis entre le moment où vous vous levez le matin et le moment où vous couchez le soir. Mmh. Et si vous réfléchissez, eh bien, il faut compter tous les temps que vous passez assis au travail, les temps que vous passez assis dans les transports, si pour aller d'un point A à un point B, vous y allez avec des transports passifs comme les transports en commun ou la voiture. Mmh. Et puis, la dernière partie, le temps passé assis dans les loisirs et le plus souvent derrière les écrans. Mmh. Et en France, comme dans tous les pays développés, en moyenne, le temps passé assis, c'est 10 à 11 heures par jour. Quand on considère qu'on a 16 heures de temps éveillé, vous voyez que ça fait quand même 80% de la journée, ce qui est énorme.
Et l'exercice physique, est-ce que c'est la même chose que la pratique sportive?
Alors non, l'exercice physique ou l'activité physique, en gros, c'est dès que vous êtes debout et que vous commencez à bouger. Donc en fait, dès que vous bougez, alors ce qui varie en fait, c'est l'intensité. Ça peut être très léger, comme par exemple être dans la cuisine et aller faire un tour dans le frigo pour prendre de l'eau, bien sûr, pour aller chercher la mousse au chocolat.
Évidemment.
Ou aller ranger quelque chose dans son bureau. Voilà, vous n'allez pas vite, mais vous faites de l'activité physique. Après, ça peut être une intensité modérée, comme par exemple courir tranquillement, ou de forte intensité quand vous allez monter l'escalier à toute vitesse ou courir après votre bus, parce que vous voulez vraiment vraiment l'avoir. Après, ce qui va varier, c'est la fréquence. C'est le type d'activité physique où vous faites de l'endurance, du renforcement musculaire, de la souplesse, etc. Voilà, ça, c'est l'activité physique. Et le sport, elle, c'est une activité physique qui va répondre à certaines règles et dont le but est généralement de s'améliorer avec ou sans compétition.
Lucille Woodward, vous, sur vos contenus, qu'est-ce que vous proposez exactement ?
Eh bien, moi, je propose un style de vie plus actif, donc avec plus de sport intégré au quotidien. Le fait aussi d'avoir un peu plus d'activité physique chaque jour qui vient. Et puis aussi d'améliorer son alimentation et surtout son mental. C'est vrai que finalement, le rapport mental qu'on peut avoir au sport et à l'alimentation, ça fait partie d'un tout.
Boris Cheval, là je m'adresse aux chercheurs en psychologie. Notre pente naturelle, c'est d'être partisan de la loi du moindre effort, de préférer le canapé à l'activité physique, d'être frappé du syndrome du paresseux. C'est naturellement inscrit dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est un grand adepte du moindre effort.
Oui, en fait, on est né pour deux choses. Alors, la première chose, il faut le rappeler, on est né pour être actif physiquement. On est l'espèce sur la planète Terre avec la plus grande capacité d'endurance. Donc, on a énormément d'adaptations physiques, musculaires, cardio-respiratoires, aussi tout ce qui est lié à la thermorégulation, hein, qui fait qu'on est né pour être actif physiquement et qu'on a besoin d'être actif physiquement pour rester en bonne santé. Mais il faut se rappeler que nos ancêtres, ils ont évolué dans une société avec des pénuries de ressources. Et donc, au cours des deux derniers millions d'années, notre cerveau, il a évolué avec une idée en tête, c'est essayer de conserver au maximum l'énergie pour faire face aux pénuries qui allaient arriver. Et si on regarde les données contemporaines de neurosciences cognitives, on le voit, notre cerveau, malheureusement, il traite l'effort physique comme un coût, comme une expérience aversive. Donc notre cerveau, il marche très bien. Dès qu'il y a une opportunité de minimiser l'effort, on va y aller. Escalator, ascenseur, on est fait pour ça et notre cerveau, il marche très très bien pour le faire.
Pourquoi l'effort apparaît pour certains comme un plaisir, pour Lucille Woodward par exemple, alors que c'est exactement l'inverse pour d'autres ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être attirés par l'effort. Hein. L'effort est assez paradoxal finalement, puisque quand on met de l'effort dans un comportement, ça va surévaluer la récompense. Donc si vous faites de l'effort, derrière que vous obtenez quelque chose, votre cerveau, il va le traiter comme quelque chose de plus récompensant. Donc on a des gens qui vont réussir par l'apprentissage à apprécier l'effort physique. Mais j'aime bien le dire et je le répète, les sportifs de haut niveau qui font des ultra-trails, des marathons, lorsqu'ils courent, ils sont efficients au niveau biomécanique. Donc là, l'optimisation d'énergie, elle est permanente. Et quand on discute aussi avec des athlètes de haut niveau, hein, entre leur phase de préparation et entre leurs courses, bah, ils vont aussi être partisans du moindre effort et chercher la place de parking la plus près du centre commercial pour essayer de minimiser au maximum cette dépense d'énergie.
Lucille Woodward, pourquoi est-ce que vous prenez autant de plaisir à faire de l'exercice physique, du sport ?
C'est une question que j'ai déjà posée à Boris il y a quelques temps. Il n'était pas forcément, la réponse n'était pas forcément facile. Je pense que ça vient d'une éducation. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis enfant. J'ai toujours aimé ça. C'est vrai que je me conditionne aussi, finalement. Je sais que plus tard, après ma séance de natation, de course à pied ou de danse, bah, je vais me sentir bien. Ouais. En fait, c'est vraiment un apprentissage de se dire que plus tard, après la séance, après l'effort, après avoir monté les escaliers dans le RER, bah, je vais être contente de moi. En fait, c'est vraiment de se projeter après.
C'est très intéressant ce que dit Lucille Woodward. Vous l'expliquez dans votre livre, Boris Cheval.
Exactement, c'est vraiment ce mécanisme-là de se dire quelles sont les récompenses que je veux obtenir en faisant de l'activité physique. Alors c'est bien de savoir que ça va être bon pour votre santé, que ça réduit les risques de cancer du côlon, du sein, risque de diabète de type 2, etc. Mais c'est assez éloigné. Par contre, ce qui va vraiment fonctionner, c'est les récompenses immédiate. Qu'est-ce que vous obtenez ? Votre fierté, le sentiment de compétence, amélioration de sommeil, on en parlait juste avant, l'amélioration de l'humeur. Donc toutes ces conséquences qui sont tangibles, matérielles de votre engagement. L'effort, c'est un coût, mais il peut vous apporter des bénéfices et il faut que le coût soit inférieur aux bénéfices que vous allez obtenir.
Et nous accueillons Martine. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Martine ?
De Bordeaux.
De Bordeaux. Alors vous êtes physiquement active grâce à votre chien, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur la motivation. Quand des fois, elle est faible, et à condition d'aimer les animaux, évidemment. Et ben, je pense qu'adopter un chien, ça vous motive tout de suite. Dans le fait de partir marcher, et ensuite dans le plaisir de voir l'animal qui est content, quoi, de marcher.
Et vous n'avez pas le choix, Martine, parce que qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il vente, vous êtes bien obligé d'aller le promener.
Exactement. Comment et donc, pardon.
Non, allez-y, pardon.
Et ben donc, comme ma chienne a 11 ans, ben ça fait 11 ans que ça dure. Ah ouais. Une heure tous les jours.
Alors, voilà. Est-ce que quand vous promenez votre chienne, vous mettez, vous savez, je vois de plus en plus ça, ces dispositifs de ceinture, où quelque part, vous êtes traîné par votre chien, vous êtes même obligé à marcher très vite. Je l'ai encore vu en forêt de Fontainebleau ce week-end. Est-ce que vous êtes adepte de ça, ou vous êtes adepte de la laisse classique, ou alors sans laisse? Racontez-nous un petit peu.
Non, alors, comme j'habite, pas exactement Bordeaux, mais la banlieue, ouais. J'habite tout près d'une forêt, et donc je marche avec des bâtons, par contre, je marche avec des bâtons, et ça me fait bien accélérer. Et là, ça m'a corrigé la posture aussi, j'avais tendance à marcher un peu penché en avant, et plus lentement, et depuis j'ai des bâtons, donc je pars évidemment avec une laisse, mais j'habite à côté d'un bois où je peux laisser ma chienne en liberté, elle marche devant moi ou derrière moi, et voilà.
Vous marchez combien de temps à peu près ? Vous marchez combien de temps ? Une heure, c'est pas mal, c'est bien.
On fait 3,5 km, voilà.
Lucille Woodward.
Oui, j'avais juste un petit mot sur les laisses dont vous parlez avec les harnais, oui, et les élastiques. Il faut faire attention, notamment pour les coureurs, quand les chiens comme ça tirent très fort et qu'on court derrière, on a généralement une foulée pas du tout optimale où en fait on est en freinage, on atterrit sur le talon, on peut se faire super mal aux genoux et bas du dos et du coup se dire que finalement c'est pas fait pour nous et on est nul et on n'a pas envie de continuer.
Boris Cheval.
Alors, je rebondis sur le chien parce que François Carin, qui est un cardiologue rennais, ça lui est arrivé dans sa carrière de faire une ordonnance, et l'ordonnance, c'est un chien. Donc on sait que les chiens et les animaux qu'on va devoir promener sont promoteurs de santé, puisque là, il y a un coup de l'effort, mais on est tellement obligé de façon de sortir que ça va permettre de mettre en place le comportement.
Mais là, c'est une promenade un peu particulière, parce que Martine utilise des bâtons. Tiens, les bâtons, ça va faire travailler quelle partie du corps, Lucille Woodward ?
Les bâtons, c'est très intéressant, parce que ça peut mettre 20 à 30% de l'effort dans les bras, notamment faire travailler les épaules, les triceps, donc augmenter finalement l'activité cardiaque, puisque plus de muscles sont engagés. Donc oui, c'est vraiment très intéressant, les bâtons.
Merci beaucoup, Martine, de nous avoir appelé. Alors, Boris Cheval, j'aimerais que vous nous expliquiez les interactions entre nos intentions et nos pulsions. Deux mécanismes cérébraux expliquent nos comportements, les mécanismes contrôlés, réfléchis, et les mécanismes automatiques, impulsifs. Et ces deux mécanismes vont expliquer qu'on décide ou non de se lever de son canapé pour aller faire de l'exercice physique. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est déjà, les philosophes grecs parlaient de ça, ils appelaient le concept d'akrasie ou faiblesse de la volonté. Alors il y avait un petit mot un petit peu moins joli, c'était incontinence comportementale, pour dire qu'on n'arrivait pas à se retenir en fait. Et on peut agir contrairement à ce que notre opinion nous dit comme meilleur. Et dans le cas de l'activité physique, c'est un peu ça. On a l'intention, on veut faire de l'activité physique, on sait que c'est bon pour nous. Mais dans le même temps, quand vous pensez à votre séance d'activité physique, quand vous voyez vos affaires de sport, ça va plutôt déclencher des réactions affectives négatives, plutôt une tendance à l'évitement. Dans ce cas-là, les deux systèmes, ils rentrent en conflit. Ils vont tirer dans des sens opposés. Et pour mettre en place le comportement, il va falloir utiliser vos capacités d'autorégulation, de self-control.
Qui se situe dans le cortex préfrontal, c'est ça ?
Alors, on va le situer, ouais, toute la partie avant, hein, globalement, au-dessus de vos yeux, hein, c'est les parties où on va avoir le siège de l'autorégulation. Et c'est cette partie qui va permettre d'inhiber en fait vos pulsions. Donc on est attiré vers la sédentarité, mais on peut utiliser ses capacités cognitives pour dompter cette pulsion et s'engager dans l'activité physique.
C'est difficile. Prenons un exemple concret. Je vais voir mon médecin généraliste. Il me conseille de faire du sport pour faire baisser ma tension artérielle. Je sors du cabinet gonflé à bloc. Je viens de voir Martine Duclos. Elle m'a vraiment motivé. Je suis décidé à faire de l'exercice. Et pourtant, là, les bonnes résolutions vont décliner. Expliquez-nous ce qui se passe.
C'est parce que
comment lutter contre cette envie de ne rien faire alors que j'étais motivé en sortant du cabinet du médecin?
Oui, on le retrouve. Alors, quand je travaillais à Genève, aussi aux hôpitaux universitaires de Genève, les patients qui avaient un infarctus du myocarde, ils avaient 6 semaines de réhabilitation cardiaque. À la sortie des 6 semaines, il y avait la moitié qui faisait plus d'activité physique. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, la motivation va un petit peu se perdre à partir du moment où le comportement, il est coûteux et il n'apporte pas quelque chose d'immédiatement récompensant. Donc, il faut vraiment que votre système fonctionne comme ça. On est dans une balance coût-bénéfice. Il y a un coût, c'est l'effort, c'est comme ça. C'est engrammé dans votre cerveau. L'effort est un coût, c'est une expérience aversive. Il faut que ce coût soit associé à des bénéfices pour pouvoir vous engager. La santé, je leur dis, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Donc, il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose de tangible, comme les expériences affectives, comme du plaisir. Si vous prenez du plaisir, vous allez vous engager. J'aime bien prendre cet exemple aussi, hein. J'ai la chance d'habiter à côté de la mer en Bretagne, j'ai des surfeurs à 6h du matin, ils vont aller regarder les vagues et ils sont levés parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant dans ce comportement-là.
Avant d'écouter Marion, hein, qui a une question très intéressante pour la professeure Martine Duclos, Lucille Woodward, on a la chance de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pourriez nous montrer un premier exercice à faire à la maison? Alors évidemment, c'est filmé, vous pourrez voir les vidéos sur les réseaux sociaux, mais voilà, expliquez-nous un premier mouvement facile à faire, Lucille Woodward.
Ouais, en fait, souvent, quand on arrive à la maison, on est fatigué et en plus, on a pris plein de décisions. Donc, voilà, comment est-ce qu'on doit travailler, etc. Et donc, on est crevé et donc, on a l'impression qu'on doit s'affaler sur le canapé pour récupérer de l'énergie. Alors qu'en fait, quand on fait du sport, qu'on bouge même 5 minutes, on récupère de l'énergie grâce à nos muscles, en fait, qui nous font un petit boost cardiaque. Donc, je vous propose de mettre en action les muscles les plus gros de l'organisme, les cuisses, les fessiers et les abdominaux.
Donc, ça me va.
On est chez soi, on n'a même pas enlevé son manteau, on peut déjà le faire. On peut plier un tout petit peu les genoux, mais vraiment pas beaucoup. Comme ça, on est sûr de bien le faire et de ne pas se faire mal. Et tout de suite, remonter et ensuite passer sur la pointe des pieds. Donc ça fait pied plat, je plie les genoux. Ensuite, je me redresse, je suis debout normalement et je passe sur la pointe de pied. Et ensuite, j'enchaîne ça un petit peu plus rapidement. Ça fait squat, pointe de pied. Squat, point de pied. Donc là, on a les mollets, les fessiers, les cuisses et les abdominaux qui sont engagés. C'est des gros groupes musculaires. On en fait seulement 15, donc ça prend à peine une minute. Et d'un seul coup, en fait, on va avoir un petit shoot d'énergie et se sentir bien pour le reste de la journée. Donc aller dans la cuisine, faire plein de trucs. Ou bien, pourquoi pas, mettre sa tenue de sport et partir marcher, courir ou même danser dans sa chambre.
Je gaine en même temps quand je fais ce mouvement-là?
En fait, le gainage, il se fait automatiquement. Puisque comme on est en déséquilibre, on est obligé de gainer. Donc, on peut penser à rentrer le nombril un petit peu plus en direction du dos. En effet, ça aide. Mais quoi qu'il arrive, dès qu'on se met comme ça ici, sur la pointe de pied, on a les abdominaux qui s'engagent.
Et vous retrouverez les vidéos sur les réseaux sociaux de France Inter. Et nous accueillons un solide gaillard qui monte à cheval dès qu'il le peut. C'est le retour de Thierry Lhermitte dans Grand Bien Vous Fasse. Oui, c'est vous, Thierry.
Oui, bonjour, je me réveille.
Ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale, que l'on retrouve une fois par mois vers 10h40. Tous les mois, vous visitez un labo de recherche et vous nous racontez les innovations de ce labo. Et ce mois-ci,
c'est le laboratoire de Raphaël Rodriguez qui travaille sur une thérapie pour les métastases cancéreuses.
Et on se réveille, Thierry Lhermitte. Ouais. Dans quelques instants, nous verrons si les motivations extérieures ou les motivations autonomes marchent le mieux pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Racontez-nous si vous avez du mal à faire de l'exercice physique. Avez-vous tenu vos bonnes résolutions du début d'année pour faire du sport? 01 45 24 7000. Racontez-nous comment vous vous motivez pour bouger, même après une rude journée de travail ou de cours. WhatsApp ouvert également. On écoute Daft Punk, Pharrell Williams et Nile Rodgers. Lose Yourself to Dance, une chanson de 2013 qui donne sacrément envie de bouger à 10h24.
Lose yourself to dance. I know you don't.
Daft Punk, Pharrell Williams et Nile Rodgers interprétaient Lose Yourself to Dance.
Grand bien vous fasse.
Et voilà une bonne résolution de fête.
On l'a dit, on l'a fait, cette année on s'inscrit au sport.
Eh oui.
Sur France Inter.
Eh bien c'est parfait, vous pouvez commencer votre première séance.
Ma première quoi?
Votre première séance de sport directement. C'est votre résolution, non?
Ah, notre résolution c'était de s'inscrire au sport, pas d'en faire, mademoiselle.
Ali Rebéi.
Et ce matin, dans Grand Mal vous fasse, comment se remettre en mouvement alors que notre tendance naturelle nous pousse à la paresse, surtout par temps froid, où l'on préfère rester confortablement au chaud chez soi. Pour nous aider, le neuropsychologue Boris Cheval, l'endocrinologue Martine Duclos et la coach sportive Lucille Woodward. Et nous accueillons Marion. Bonjour Marion. Bienvenue.
Bonjour. Merci.
D'où appelez-vous Marion?
De Bruville, en Meurthe-et-Moselle.
Alors, quelle est votre question?
Moi, ma question, c'était à partir de quand, est-ce que le fait de rester debout s'apparente à de l'activité physique? Mm-hmm. Par exemple, quand on est chez soi, qu'on fait des tâches ménagères, voilà, ce genre de choses, parce que moi, j'ai un métier qui est plutôt sédentaire, donc les quelques jours où je suis à la maison, est-ce que quand j'effectue ces tâches, est-ce que c'est considéré comme de l'activité physique?
J'espère que vous n'êtes pas toute seule à les effectuer, ces tâches, Marion.
Non.
Tant mieux. Et on va poser la question à la professeure Martine Duclos, qui est chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Martine Duclos, le fait de s'activer à la maison dans des tâches ménagères, du jardinage, des choses similaires?
C'est excellent, c'est de l'activité physique. Alors, les tâches ménagères, alors ça peut même être de l'activité physique d'intensité modérée, hein, si vous en êtes, si vous passez l'aspirateur ou la serpillière, c'est de l'intensité modérée, donc c'est comme dans les recommandations. Si vous êtes debout à faire la cuisine et tout ça, c'est parfait. Du moment que vous n'êtes pas assise et que vous bougez, vous faites de l'activité physique, donc ça c'est très très bien. Une autre chose aussi que je voulais dire, parce que je suis, j'aime beaucoup Boris Cheval et je suis d'accord avec ce qu'il dit, sauf sur un point quand même. D'accord, notre cerveau a évolué sur les deux derniers millénaires en ayant tendance à chercher à diminuer nos dépenses énergétiques, mais je pense quand même que sur les 30 ou 50 dernières années où toutes nos activités ont été quand même mécanisées à l'extrême, il est important aussi, enfin je pense que les gens sont informés et doivent être informés que on peut arriver à des journées où on n'a aucune dépenses liées à l'activité physique. Donc, tout notre organisme est effectivement orienté quand même pour faire monter la glycémie, pour lutter contre l'hypoglycémie. Or, on passe 75 à 80% du temps de la journée en postprandial, c'est-à-dire en situation où on apporte de l'énergie. On n'a que des hormones pour faire monter la tension artérielle et aucune hormone pour faire baisser la pression artérielle. Donc, on a uniquement un système qui est adapté à lutter contre, effectivement, une situation de jeûne. Et c'est pas du tout la situation dans laquelle on est. Donc, il me semble quand même très important de se dire que quand on est conscient de ce genre de choses, de la situation dans laquelle on est, pour laquelle on n'est absolument pas programmé actuellement, il est quand même indispensable de programmer. Alors, d'un côté, il y a le cerveau, ok, mais d'un côté, on a quand même nos muscles qui produisent des hormones et qui ont besoin de fonctionner parce que ces muscles aussi, ils agissent sur le cerveau, ils agissent sur le foie, ils agissent sur le cœur, et ça aussi, c'est physiologique. Donc, le cerveau, c'est bien, mais maintenant, on évolue quand même pour dire que le cerveau, il programme des choses, mais il y a quand même une communication directe entre le muscle et les autres tissus, et que les autres tissus, ils ne sont pas totalement débiles non plus.
Boris Cheval.
Les autres tissus ont besoin d'être stimulés.
Boris Cheval.
C'est exactement ça. Alors, on a un papier où on rajoute le rôle de l'environnement. En fait, il y a un décalage évolutif entre notre héritage. Donc, on est fait pour bouger et aussi pour conserver de l'énergie parce qu'on était dans une situation de pénurie. Et la situation actuelle moderne qui nous donne un ensemble d'opportunités de minimiser. J'aime bien donner ce chiffre, mais je redonne. Vous prenez un enfant du CP à la terminale, il va être assis pendant une année, nuit incluse, sur sa chaise. Donc c'est une année entière assis sur une chaise pour apprendre. Ça c'est du CP à la terminale. Donc l'environnement social, culturel, il est créé pour nous pousser à nous asseoir et on aime ça.
Lucille Woodward, de coach sportive.
Oui, pour répondre aussi à Marion. Donc, bien sûr, l'activité physique de cuisiner, repassage, passer l'aspirateur du jardinage, c'est excellent. Mais finalement, ça doit s'ajouter. Ça ne remplace pas, ça doit s'ajouter. Ça va avec les 150 minutes de sport par semaine. Donc, c'est 5 fois 30 minutes par semaine. Donc, pratiquement tous les jours de la semaine, au moins 30 minutes de sport, dans lesquelles on doit vraiment être un petit peu vigoureux. Donc quand même y aller, transpirer, sentir un essoufflement et aussi activer les muscles, donc faire du renforcement musculaire.
Je prends un exemple, quand je vais marcher, hier après-midi par exemple, j'ai marché pendant une heure et demie, j'ai marché au bord de l'essoufflement, c'est-à-dire que ce n'était pas une simple flânerie, en gainant les abdos, en faisant travailler le périnée, alors c'est vrai que ça donne une position un peu raide peut-être, mais en marchant vraiment au bord de l'essoufflement. C'est ça l'activité physique, vraiment d'intensité modérée.
Oui, et... OK pour le bord de l'essoufflement, mais être vraiment essoufflé, c'est aussi hyper important. Minimum 3 fois 5 minutes dans la semaine. Donc en tout, c'est 15 minutes de gros essoufflement. Donc typiquement, quand on nage des séries, donc on fait des 25 mètres sprint, on peut courir très rapidement sur 200 mètres, ou quand on marche, vraiment être à fond de fond. Mais ça, c'est du 8 à 9 km/h en marchant.
Bien sûr. Et attention, il s'agit d'un essoufflement qui n'est pas lié par exemple à une insuffisance cardiaque.
Hein. Non, c'est plutôt du fractionné, comme on appelle ça, donc des moments très intenses de pratique de sport pour faire muscler son cœur, muscler ses muscles et aller mieux et progresser.
Merci beaucoup Marion, et nous accueillons Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Vous appelez de Nice.
Oui.
Alors, quelle est votre stratégie personnelle pour faire un peu plus d'activité physique?
Alors, ma stratégie personnelle, qui ne vaut peut-être pas pour tout le monde, c'est que ce soit la première chose que je fais le matin. Mmh. C'est-à-dire que je commence ma journée, je ne fais rien d'autre avant, à part peut-être boire un verre d'eau et satisfaire les besoins naturels. Je me lève, je fais ça. Mmh. Alors pour ça, je me suis abonnée à une activité en ligne, que tout le monde, presque tout le monde déteste, mais moi je trouve que ça évite les transports, etc. Et voilà, je choisis ma séance, ça va de 10 minutes à 40, ça travaille un peu tout. Et voilà, donc je commence ma journée et en fait ça impacte tout le reste de la journée. Ça apporte quelque chose de énergique, de joyeux, je sais pas.
Et Elisabeth, est-ce que vous êtes d'accord avec Rami de Bruxelles qui nous a écrit ceci? Je pense qu'il faut arrêter d'attendre la motivation, mais de planifier l'activité physique dans son agenda. Ça doit devenir comme se brosser les dents. Il est normal d'avoir la flemme. Si on attend d'avoir envie à chaque fois, c'est perdu d'avance. Ça vous parle, ça?
Alors, je suis en partie d'accord sur le fait de le programmer mentalement, au moins. Mais par contre, moi, j'aime ça. Donc, c'est pas un obstacle. C'est pas une punition. Je le fais par plaisir et pour ce que ça m'a, comme ça a été dit par vos intervenants, l'impact pour le reste de la journée, le se sentir bien, se sentir en forme parce qu'on a bougé, quoi, voilà.
Boris Cheval.
Oui, là, on rentre vraiment dans la notion d'habitude et ça marche très bien le matin. En fait, c'est lorsqu'il y a un stimuli ou un contexte particulier assez stable qui va déclencher un comportement. Donc là, le type d'activité physique que vous faites et qui va être associé à une récompense. Et il faut que ce soit plaisant parce que si c'est pas plaisant, ce triptyque déclenchement du comportement, comportement particulier et récompense, il va pas se mettre en place et du coup, le comportement va être difficile à mettre en place. Et l'intérêt de l'habitude, c'est que quand vous commencez un comportement, il faut le planifier, c'est coûteux. Mais une fois que vous avez l'habitude, ça devient complètement automatique et spontané. Il n'y a plus d'effort d'autorégulation, il n'y a plus d'effort cognitif pour mettre en place le comportement. Donc plus besoin de réfléchir à la décision, ça devient automatique.
Lucille Woodward.
Oui, revenir sur cette notion de plaisir, trouver le sport qui vous fait plaisir. Peu importe si en ce moment sont à la mode la course à pied ou l'aerox, et que si vous n'aimez pas, faites autre chose. Faites un sport qui vous plaît. Il y a tellement de façons de faire du sport, vous pouvez trouver.
Merci beaucoup Elisabeth. Juste une petite incise, moi ce matin j'ai marché pendant 3 quarts d'heure, mais franchement l'idée de sortir dans le froid à 6h du mat, c'était pas le plaisir qui m'a conduit à sortir de chez moi, c'est vraiment l'idée d'un bénéfice futur, et je me suis mis en mode robot, vraiment, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mon équipement, et je vous assure, il n'y avait pas de plaisir à sortir à 6h du matin, le plaisir est venu au fur et à mesure de la marche, mais pour sortir de chez soi...
C'est compliqué, c'est compliqué, on est d'accord, hein, surtout la météo, alors qu'il fasse chaud ou froid.
On a toujours des bonnes excuses.
On a aussi les femmes, par exemple, dans les quartiers qui sont plutôt un peu défavorisées, où il n'y a pas de lumière, etc. Il y a aussi des coûts, en fait, additionnels hein, qu'il faut ajouter en plus de l'effort, le temps, la douleur, la peur éventuellement, etc. Donc il y a un ensemble de coûts, et c'est effectivement pas toujours facile. Mais le bénéfice de santé, il est important de l'avoir en tête, mais pour le maintien sur toute une vie, il ne va pas être suffisant.
Alors, vouloir faire du sport, ou devoir faire du sport, là est la question. Qu'est-ce qui marche le plus pour se mettre ou se remettre à une activité physique? Est-ce que ce sont des raisons contraintes, c'est-à-dire une pression externe, la pression sociale, la pression du médecin, ce que nous devons faire, ou alors des raisons autonomes, ce que nous voulons vraiment faire par plaisir? Que nous dit la recherche en psychologie?
Alors là, la littérature, elle est claire. Alors pour l'activité physique, mais pour tous les comportements humains, il faut que ce soit des raisons autonomes, il faut que ce soit des raisons personnellement valorisées. J'aime bien donner cet exemple pour savoir si c'est vraiment quelque chose que vous valorisez personnellement. Imaginez-vous que vous allez être conduit sur une île déserte, vous n'allez plus jamais voir quelqu'un autour de vous. Est-ce que vous continueriez à faire ce comportement-là pour les conséquences associées? Vous pouvez vouloir perdre du poids, avoir un corps plutôt fit pour vous parce que ça vous fait du bien, mais si c'est pour les autres, à un moment donné, votre motivation va s'étioler, et ça, c'est vraiment extrêmement robuste dans la littérature. Donc, recherchez les raisons personnelles que vous valorisez pour votre engagement.
Lucille Woodward.
Oui, dans ma communauté, j'ai très souvent des questions du type « qu'est-ce que je peux dire à ma mère pour qu'elle se mette au sport ?» ou à mon conjoint qui ne veut pas en entendre parler. Ben, mon conseil, vraiment, c'est arrêter de leur en parler. Oui. Parce qu'en fait, ils le savent très bien qu'ils ne font pas de sport ou pas assez. On leur a déjà dit mille fois. Exactement, ça peut finalement leur envoyer encore plus des messages de sentiments, en fait, de ne pas y arriver et du coup, encore plus d'aversion. Donc, finalement, juste soyez vous-même votre propre exemple, rayonnez parce que vous êtes, parce que ça vous fait plaisir, et les comportements des autres, en fait, c'est pas de votre ressort.
Professeur Martine Duclos, qu'est-ce qui marche le mieux pour inciter vos patients à bouger plus? Comment faites-vous pour les inciter à faire davantage d'exercices physiques à moyen et à long terme?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on fixe des objectifs qu'on construit ensemble. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ou alors, on fixe des objectifs de type SMART, c'est-à-dire un objectif qui est spécifique, pas dire, par exemple, marcher 30 minutes, mais non, par exemple, marcher 10 minutes après le déjeuner. C'est mesurable, donc S spécifique, M mesurable, donc ils vont pouvoir suivre le progrès. On va commencer par 10 minutes, puis on va passer par 15 minutes, puis 20 minutes, ou un nombre de pas. Atteignable, c'est quelque chose qu'ils peuvent atteindre. On a fixé ensemble un objectif atteignable. Réaliste, ça va un petit peu... ça a du sens pour eux, parce qu'avec ça, la glycémie va baisser. Et puis, c'est limité dans le temps, pendant, par exemple, 15 jours. Et puis après, ils vont augmenter de 500 ou 1000 pas. La deuxième chose aussi qu'on peut faire, c'est... moi, je trouve que ce qui est très bien... Alors, il y a le chien. Hein, le chien, effectivement, comme vous l'avez dit, et les études scientifiques montrent bien qu'avec le chien, il y a des bénéfices pour la santé. Chez les diabétiques, ça améliore la glycémie. Chez les sujets en situation de surpoids, ça baisse... éventuellement le poids. Et puis, ce qui marche bien, c'est quand même faire ça à plusieurs. C'est-à-dire que si vous donnez un rendez-vous à quelqu'un pour aller faire du vélo ou pour aller marcher, il y en a peut-être un des deux qui n'aura pas envie, mais il y en a un qui aura envie. Et puis, on sait qu'avec l'autre, on va discuter, etc. Donc ça, ou aller le faire en groupe, ça, c'est quand même ce qui marche le bien. Et puis, en plus, il y a le plaisir social. Il ne faut pas oublier, alors, je mets pas le mot de sport que vous avez trop souvent utilisé. On fait de l'activité physique, hein. On n'a pas chez une licence, on ne fait pas de la compète. Mais voilà, l'aspect social, on va rejoindre des gens avec qui on va faire une activité ensemble. Et ça, quand on n'est pas motivé, c'est quand même quelque chose qui marche très très bien.
Boris Cheval.
Bah exactement, hein, c'est toujours pareil. Hein, il y a le coût de l'effort, il y a toutes les conséquences associées. Et on a pas mal de patients qui nous expliquaient qu'en fait, ils vont faire de l'activité physique ou ils vont courir. Mais c'est surtout pour aller discuter avec leur ami sur cette balade. Donc du coup, une intensité un peu modérée pour pouvoir parler. Mais c'est effectivement un besoin fondamental de l'être humain, le besoin de proximité sociale, le besoin de nature aussi. Hein, donc on peut montrer que les effets sont améliorés dans la nature. Et puis on a un besoin aussi de compétences. Donc il faut qu'à un moment donné, le comportement, vous sentez que vous êtes efficace. Et puis le dernier besoin, c'est le besoin d'autonomie. Il faut sentir que vous ayez un choix dans l'action que vous êtes en train de mettre en place.
Élise nous écrit 3 trucs venant de la fille la plus flemmarde du monde. 1, si vous avez les moyens, un coach à domicile. Impossible d'annuler avec le coach. 2, sport en intérieur. Vive le pilate à la maison. 3, je descends 2 stations de métro avant mon arrêt. Nombre de pas atteint, j'habite à Paris et j'ai les moyens, c'est forcément plus facile. Allez, il est 10h41, l'heure de retrouver la chronique de Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, une fois par mois dans cette émission. À venir cet automne, un livre édité par France Inter et la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors, pour cette reprise de chronique, vous vous êtes rendu, Thierry, à l'Institut Curie à Paris pour y rencontrer l'équipe de Raphaël Rodriguez. Il est directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe biomédecine dans l'unité chimie-biologie des cancers. Et ce chercheur a été soutenu à plusieurs reprises par la Fondation pour la Recherche Médicale, notamment il y a 10 ans pour créer son équipe. Et avec elle, Raphaël Rodriguez mène des travaux sur les métastases. Et sa dernière découverte semble très prometteuse. Avant tout, pourquoi est-ce une question majeure?
Et bien parce que l'apparition de métastases est en général de mauvais pronostic. Elle est à l'origine de plus de 70% des décès liés au cancer. En effet, ces cellules résistent davantage au traitement grâce à leur capacité d'adaptation. Alors, d'une manière générale, toutes nos cellules ont la propriété de s'adapter à leur environnement. C'est essentiel, par exemple, pour lutter contre les virus. Mais dans le cas du cancer, c'est justement problématique.
Pour quelle raison ?
Eh bien, parce que certaines cellules tumorales, en s'adaptant, peuvent devenir résistantes aux thérapies. La plupart des traitements ciblent les cellules en multiplication rapide. Ça, c'est une caractéristique du cancer. Mais certaines de ces cellules s'adaptent, arrêtent de proliférer et elles entrent alors dans un état qu'on appelle la dormance.
Qui paraît positif a priori.
Eh ben oui, mais non. Parce que, d'une part, elles peuvent ainsi échapper au traitement et rester cachées pour se réveiller plus tard, c'est la récidive. Et d'autre part, elles peuvent continuer à acquérir d'autres propriétés comme celle de migrer. Elles vont alors s'implanter dans d'autres organes ou plusieurs et s'y multiplier à nouveau pour refaire des tumeurs. Ce sont les métastases. Et ces métastases, qui ont donc des propriétés nouvelles issues de toutes ces adaptations, ne ressemblent plus vraiment à la tumeur initiale. C'est pourquoi elles sont plus difficiles à traiter.
Et donc l'équipe de Raphaël Rodriguez cherche à comprendre ce processus d'adaptation des cellules cancéreuses.
Exactement. Et comme il est à la fois chimiste et biologique, il a abordé cette question sous l'angle de la chimie des métaux à l'intérieur des cellules. Alors pourquoi les métaux ? Il faut savoir que notre organisme, pour fonctionner, a besoin de métaux, en particulier de le fer et le cuivre, pour de très nombreuses réactions chimiques. Le fer transporte par exemple l'oxygène dans le sang, mais il intervient aussi dans la chimie de toutes les cellules. Et en 2020, avec son équipe, Raphaël Rodriguez a découvert que la cellule cancéreuse, qui devient métastatique, a un besoin accru en fer notamment. Et l'équipe a aussi découvert le mécanisme moléculaire qui permet à la cellule de capter le fer dans son environnement et de l'utiliser à l'intérieur de la cellule.
Et comment ça marche ?
Eh bien, les cellules métastatiques ont à leur surface une très grande densité d'un récepteur qui s'appelle le CD44 auquel se fixe le fer. Eh bien, grâce à ce récepteur, le fer pénètre dans la cellule et là, il orchestre toute une cascade de réactions qui modifie très rapidement l'expression des gènes. Quand on dit rapidement, c'est en quelques heures. Ce sont ces modifications qu'on dit épigénétiques qui créent l'adaptation de la cellule cancéreuse et sa transformation en cellule métastatique très agressive.
Et donc...
ce mécanisme, c'est ça qu'il voudrait stopper.
Et oui, c'est ça.
Et bien oui, parce que l'équipe
parce
a aussi
que j'ai
découvert...
beaucoup de paroles, là, excusez-moi.
Ben oui, et là, l'équipe a aussi découvert que l'équilibre est très fragile. Si trop de fer est capté, eh bien ça conduit à la mort de la cellule, c'est la ferroptose. Et il faut se rendre compte que cette découverte sont un véritable changement de paradigme sur le rôle du fer en biologie cellulaire. L'idée, ensuite, ça a donc été de concevoir une petite molécule qui stimule ce mécanisme de mort. Ça paraît très simple, mais c'est l'aboutissement de 15 ans de recherche. Et ça marche. Les essais réalisés dans différents modèles de laboratoire et sur des cellules tumorales de patients sont très encourageants. Cette stratégie permet de tuer les cellules métastatiques. Et d'ailleurs, l'article publié dans Nature, qui décrit tous ces résultats, a été une véritable bombe. Il a été téléchargé plus de 100 000 fois. Alors ça, c'est énorme pour un article scientifique. C'est pas comme une traîne sur TikTok.
Et pour la suite ?
Et pour la suite, eh ben, cette approche très innovante pourrait être utilisée en association avec les thérapies existantes pour diminuer ou peut-être mieux supprimer les risques de métastases. Pour la valider, il faut maintenant faire des essais cliniques. Et pour ça, il faut des financements très importants. Et on compte sur vous.
Et donc, comment aider la Fondation pour la recherche médicale et notamment le projet de Raphaël Rodriguez? On s'y prend comment?
Eh bien, on peut aller sur frm.org et faire un don en ligne, ou bien, si on veut donner 10 euros prélevés sur votre facture téléphonique, il suffit d'envoyer le SMS don au 92 300.
92 300,
don, et le message, D-O-N. C'est don, D-O-N.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte, on vous retrouve le mois prochain pour la Fondation pour la recherche médicale. Dans un instant, des conseils pour se remettre à bouger, devenir ou redevenir physiquement actif. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. On se retrouve juste après avoir écouté Clara Luciani et Yamé qui interprète Le Mur, 10h46 sur Inter.
Que c'était que mon frère. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse. Elle est piquée, c'est mort, et va me rendre fou. Entre le studio et la scène, je suis dans le palace. Loin de toi et de nous, oui, d'une histoire d'amour. Des millions d'écoutes, j'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
Clara Luciani et Yamé interprété Le Mur.
Ali Rebéi.
Magnifique. Vous faites du sport?
Même pas.
Grand bien vous fasse.
Superbe.
Disons que j'ai un bon pédigré.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse, comment se remettre en mouvement alors que notre tendance naturelle nous pousse à la paresse? Pour vous aider, le neuropsychologue Boris Cheval, l'endocrinologue et médecin du sport Martine Duclos et la coach sportive Lucille Woodward qui nous donnera dans quelques minutes un exercice facile à faire à la maison depuis son canapé. Et nous accueillons Nuccia. Bonjour Nuccia.
Bonjour.
Quel très beau prénom. D'où appelez-vous Nuccia?
De Bruxelles.
Alors, quelle est votre question ou votre témoignage?
Moi, c'est comme je disais au standard, je suis étudiante en psychologie. Et les périodes de révision, c'est très difficile pour moi parce que justement, je déteste être assise. Je pense que c'est toute l'information autour de la sédentarité, etc., qui est bien rentrée dans ma tête. Et du coup, le fait d'être assise pendant mes révisions, c'est compliqué. Et ça me fait aussi un peu redouter le métier que j'ai choisi, oui, parce que c'est vraiment un métier assis, quoi.
Et vous aimeriez des conseils peut-être pour être plus active, justement, et moins assise?
Les conseils qui ont été donnés, ça me fait rire, parce que moi, je fais mes petits squats en me brossant les dents tous les jours, déjà.
Mais Lucille Woodward sourit parce qu'elle a envie de vous donner des conseils.
Oui, alors sachez qu'on réfléchit mieux et on arrive mieux à parler quand on marche. Donc, la perspective d'ouvrir des consultations de psychologie en marchant, comme il y a la marche méditative, il peut y avoir aussi la marche consultation psy, peut être hyper intéressante et à proposer plus.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que notre cher ami Christophe André, qui était psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, faisait des consultations en marchant avec certains de ses patients, et c'était très très efficace. Nucia, il y a peut-être la perspective de proposer à vos futurs patients ce genre de thérapie.
De thérapie, ah bah c'est super, ouais. Mais j'avais déjà vu ça, walking therapy, comme ça, et je m'étais dit que c'était une super solution à mon problème, justement, donc ouais.
Et qu'est-ce que peut faire Nucia pendant qu'elle est assise à réviser ses cours,
ouais.
Lucille Woodward.
D'ailleurs, si vous êtes une personne qui a besoin comme ça d'activité physique, sachez que vous apprendrez mieux en bougeant. Donc faire les 100 pas dans votre logement en train d'apprendre, ça peut énormément vous aider. Par exemple, lancer une balle contre un mur aussi, ça s'appelle l'apprentissage kinesthésique. Donc, en fait, on fait un autre mouvement et en même temps on apprend. Ça permet parfois de faire mieux rentrer les connaissances. Et sinon, il y a aussi le tapis de marche ou l'espèce de pédalier sous le bureau qui peut énormément fonctionner. Moi, je l'utilise. Par exemple, j'ai un petit tapis de marche. Ça coûte 300 euros. Donc, c'est pas non plus un énorme investissement. Et
on
je travaille.
Trouver d'occasion aussi.
Oui, tout à fait. Et je travaille. C'est des petits tapis qui sont pas pour courir, un peu, juste pour marcher, en marchant, même à tout petit rythme, 2 km/h, 3 km/h, et ça fait énormément de bien pour le dos.
Et c'est vrai que de nombreuses études montrent qu'il existe une neurogénèse dans l'hippocampe, cette petite structure cérébrale impliquée notamment dans la mémoire, fabrication de nouveaux neurones quand on s'active physiquement, quand on fait du sport. Professeur Martine Duclos.
Oui, enfin, d'accord, pour la neurogénèse, effectivement, ça c'est dans les mécanismes, ce qui est très important. Et même, de toute façon, il était montré que quand on fait de l'activité physique, alors il y a deux effets sur la mémoire, parce que moi j'aime bien dire ça aux étudiants pour les motiver. Quand on fait de l'activité physique 30 minutes tous les jours, il y a un effet sur la mémoire à court terme, donc effectivement on a une meilleure mémoire. Et puis quand on en fait régulièrement, il y a une meilleure mémoire aussi sur la mémoire à long terme. Donc effectivement, pour les révisions, c'est quelque chose qui est très bien. La deuxième chose, effectivement, quand on fait des révisions, on est assis. Alors, le tapis de marche, le petit pédalier de bureau, vous en avez à 120 euros. Donc, ça, c'est des choses qui sont bien. Alors, pareil, on peut pédaler tout en révisant. Et puis, l'autre possibilité, c'est toutes les 30 minutes ou toutes les 45 minutes, vous vous levez pendant 1 à 3 minutes et là, vous bougez. Alors, ça peut être simplement faire de l'activité de faible intensité ou si vous avez la pêche, vous êtes un peu énervé parce qu'il y a un truc qui ne rentre pas, vous faites une activité un peu plus intense. Alors, ce que vous voulez, à un moment, vous pouvez faire des squats. Et puis la prochaine fois, vous faites des membres supérieurs. Enfin, après, vous faites des abdos, ce que vous voulez. Si vous avez un truc pour vous boxez parce que vous êtes énervé. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ça fait 1 à 3 minutes. Ça vous détend. En même temps, ça vous lave un peu le cerveau. Enfin, je lave, c'est très... ça enlève les mauvaises choses, trucs qui vous énervent.
Les ruminations.
Et puis, vous reconcentrez. Voilà, les ruminations, merci. Et puis voilà, vous repartez. Donc là, on sait qu'en fait, il y a deux choses qui sont mauvaises dans la sédentarité. C'est trop de temps sur 24 heures, mais c'est aussi... Et ce qui est plus mauvais encore, c'est les temps prolongés assis. Par exemple, si vous passez 3 heures sans vous lever. Donc ça, ce sera bon pour votre morale et pour vos révisions en même temps. Si vous rompez les temps prolongés, ce qu'on appelle les pauses actives, eh bien vous rompez, vous annulez les effets du temps prolongé assis.
Voilà. Maurice Cheval.
Donc ça...
Alors ça, c'est très très bien démontré, le fait d'être actif physiquement. Alors chez les enfants ou les adultes, ça va améliorer par exemple les performances scolaires chez les enfants. On voit que les études, on a augmenté le temps d'activité physique, on améliore les performances en maths des élèves. Donc on a vraiment clairement des effets qui sont démontrés, il n'y a pas de doute sur ça. Ouais.
Merci beaucoup Nucia de nous avoir rappelé. Lucille Woodward, tiens justement, on est assis sur son canapé depuis plus de 30 minutes, une heure. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, vous êtes assis sur un petit fauteuil, une chaise de bureau, mais on imagine que c'est un fauteuil, un canapé, c'est filmé, ça sera sur les réseaux sociaux de France Inter. Alors racontez-nous un peu, Lucille Woodward, un exercice facile à faire.
Un exercice qui va vous faire travailler les abdominaux et tout votre gainage. Donc vous êtes assis sur une chaise de bureau, sur un canapé ou même sur le bord de votre lit. Vous allez vous asseoir vraiment tout au bord, ok, pour que vous soyez dégagé du dossier de votre chaise ou de votre canapé. Et ensuite, d'abord on se tient bien droit. Donc on allonge la tête en direction
Thierry,
du ciel.
Thierry, allez-y.
Voilà, Thierry l'ermite, voilà, c'est ça. Il faut vraiment s'asseoir juste devant sa chaise, c'est ça. Et ensuite, on va rentrer le nombril en direction du dos. Ça déjà travaille un peu le gainage. Puis on va juste lever la jambe gauche au-dessus du sol. Voilà, donc on dégage son pied du sol. Et là, tout de suite, on sent d'activation des abdominaux. Il ne faut pas se tenir. Si on se tient, on triche.
Moi, je
on
ne
se tient
là.
Pas. On a les mains qui sont dégagées du dossier. On repose son pied gauche. Et toujours avec le nombril en direction du dos, on va lever sa jambe droite.
Voilà, donc voilà. On peut faire ça, 10 secondes jambe droite, 10 secondes jambe gauche, on sent les abdos qui travaillent, c'est automatique. Et si on se sent l'âme d'un soldat, un petit peu plus loin, si on trouve que c'est facile, on peut lever les deux pieds du sol. Alors ça fait qu'on s'incline un tout petit peu, c'est pour ça qu'il faut dégager son buste du dossier, bien être assis au bord. Et là vraiment on est à fond dans un super gainage, on ne peut pas tenir forcément très longtemps.
Donc on lève les deux jambes.
On lève les deux jambes, on décolle les deux pieds du sol, ça nous donne un petit élan, on bosse à fond les abdos, on respire et on repose au bout de 5-10 secondes. On peut le faire plusieurs fois dans la soirée exactement. De séries télévisées.
Exactement. Merci beaucoup, Lucile Woodward. Dans votre livre Boris Cheval, Le syndrome du paresseux, vous passez en revue toutes les mauvaises excuses pour ne pas bouger. J'en ai retenu 3. Je suis trop fatigué pour faire de l'activité physique.
Oui, alors c'est une qui est très, très mise en avant et qui est vraiment internationale. Alors ce qu'on aime bien dire, et je vais reprendre encore François Carré, la chaise vous ment. Vous êtes fatigué, vous asseyez. Vous restez une heure, vous relevez, vous êtes toujours aussi fatigué. Donc en fait, la sédentarité ne repose pas. Donc la fatigue, en fait, si vous faites de l'activité physique, ça va au contraire la réduire. Donc finalement, le signe de fatigue, qui est une excuse pour ne pas s'engager, devrait être une raison de s'engager. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'à chaque fois que vous avez un signe de fatigue, dites-vous, c'est là où il va falloir bouger. Vous asseoir, ça ne va pas vous reposer.
Deuxième mauvaise excuse, je n'ai pas assez de temps pour faire de l'activité physique.
Alors ça, c'est vrai qu'il y a des journées qui sont extrêmement contraintes, mais ça revient un petit peu à ce que disait Martine Duclos. Oui, peut-être pour faire du sport, mais pour faire de l'activité physique, on peut vraiment l'intégrer dans son quotidien. Vous pouvez vous arrêter 2 stations de métro plus tôt. Quand vous voyez l'escalier et l'escalateur, vous ne faites pas attraper par votre cerveau et vous allez plutôt prendre l'escalier. Donc il y a plein de petits astuces, trucs et astuces qui font qu'on peut intégrer du mouvement, donc de l'activité physique, dans le quotidien.
Troisième mauvaise excuse, mon corps me fait trop mal.
Alors ça, c'est pas une mauvaise excuse, parce que si ça fait mal, va avoir des difficultés à le faire. Par contre, ce qui est clair, c'est que si l'activité physique est douloureuse, il faut changer d'activité ou réadapter. Le fameux no pain, no gain, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire.
No pain, no gain, ça veut dire
pas de douleur, pas de bénéfice. Vous avez un coach sportif qui vous dit ça, il faut fuir la salle, puisque à long terme, vous ne pourrez pas avoir des bénéfices. Donc l'activité physique ne doit jamais être douloureuse, c'est qu'elle n'est pas adaptée.
Et ça, il est important, et pour terminer, on terminera comme ça, d'anticiper les obstacles extérieurs, la météo pourrie, une invitation à dîner ou à boire un verre, la surcharge de travail, l'irrésistible appel du canapé. On anticipe tout ça pour ne pas se trouver de bonnes excuses, Lucile Woodward.
Oui, bien sûr. Après, on a tous un anniversaire, etc. Mais je trouve que plus on parle à ses collègues, frères et sœurs, entourage, de son intention de faire plus de sport, de bouger plus, plus les gens seront compréhensifs et seront OK qu'on arrive 30 minutes plus tard à l'apéro.
Merci beaucoup, Boris Cheval. Je conseille vraiment la lecture du syndrome du paresseux. C'est en poche chez Dunod et ça donne vraiment envie de se remettre ou de se mettre à l'activité physique. Merci, Lucile Merci. Woodward. On vous retrouve sur tous vos réseaux sociaux, YouTube et Instagram notamment. Merci, professeur Martine Duclos. Tous les épisodes de Grand Bien Vous Fasse sont à retrouver sur l'appli Radio France. Les extraits vidéo de l'émission sont en partagés sur les réseaux sociaux de France Inter et sur mon compte Instagram ali.rebi. Demain, avec Philosophie Magazine, comment tout recommencer dans sa vie, recommencer au travail, en amour, en amitié, changer de vie.